Voici La politique aujourd'hui avec Bernard Drainville au 95.7 Kick.
T'as besoin d'avoir des bonnes nouvelles, toi.
Oui, M. Drainville, bon matin.
Oui, salut. Ouais. J'ai pas nécessairement des bonnes nouvelles.
On va couper ça court.
Non, mais on en a parlé tantôt et ça a suscité un tollé, là, ce que tu nous as amené en dehors des ondes concernant le point de presse qui est à suivre aujourd'hui.
Oui, gardez bien, là, je vous raconte. Là. Hier soir, assez tard, je suis pas mal sur le bord de m'endormir. Puis là, je reçois un message de Québec. Puis si je vous en parle, c'est que ça vient d'en haut. Et là, la personne me dit, je ne sais pas si tu vas parler du congé de Noël demain, là, dans ta chronique, là, mais si tu le fais, garde à l'esprit qu'avant d'organiser toutes sortes de parties puis de souper de Noël, le monde ferait bien de se souvenir de la règle numéro 1 du contrat moral. Les rassemblements ne seront permis que si on est dans une bonne situation épidémiologique en décembre, et c'est loin d'être gagné. Fait que là, je fais comme, hein, pardon? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, il dit, regarde les hospitalisations, regarde les nouveaux cas, regarde surtout ce qui se passe ailleurs en Amérique du Nord. C'est pas comme si on était dans le trèfle. Et là, il me dit, va falloir qu'on soit sur une trajectoire descendante pour ouvrir à Noël. Fait que là, je dis, OK, là, on a jusqu'à quand pour se rapprocher du chiffre de 1000 nouveaux cas? Parce que rappelez-vous, Arruda, à un moment donné, la semaine passée, il a dit, ou en début de semaine, il a dit c'est 1000 nouveaux cas. C'est ça, là, il faut se rapprocher. Idéalement, il faudrait être sous les 1000, alors qu'actuellement, on est autour de 1100, 1200 par jour, puis c'est comme ça depuis un sacré bon bout de temps. Fait que j'ai dit, on a jusqu'à quand pour se rapprocher du chiffre de 1000 avant que vous nous disiez, désolé, il n'y en aura pas de party à Noël? J'ai dit, genre, le 10 décembre, dans deux semaines? Puis là, il me répond, on n'a pas de date précise, mais je te dirais, le 10 décembre, c'est en effet pas mal le plus tard parce que la santé publique fonctionne sur des périodes de 14 jours avant de conclure une tendance sur une tendance. Fait que 10 décembre plus 14 jours, ça arrive exactement le 24. Fait que ce que je suis en train de vous dire, les gars, là, c'est écouter attentivement le point de presse de Legault à 13 heures, là, parce que moi, là, à partir de ce que j'ai eu comme info hier soir, là, j'ai bien l'impression qu'ils sont en train de nous préparer à la possibilité qu'il n'y en ait pas de rassemblement à Noël et qu'ils annulent les rassemblements qu'ils nous avaient permis de faire du 24 au 27.
Mais quelle erreur de communication. Puis je le disais quand ils l'ont annoncé, mais qu'est-ce qui presse d'annoncer des parties de Noël aussi rapidement quand la situation peut changer drastiquement en seulement deux semaines?
Oui, puis elle a changé, elle a changé. Je veux dire, il y a deux semaines, là, le Manitoba, ça allait pas super bien, mais le feu était pas pris là, dans l'Ouest comme il est pris présentement. En Ontario, ça va pas bien. La bulle dans les quatre provinces a éclaté. La bulle dans les quatre provinces atlantiques a éclaté. C'est pas. Moi, je vais te dire, Dominique, là, je pense que ce qu'ils réalisent à Québec, là, c'est que. T'sais, si pour avoir quatre jours de party, on est pour avoir quatre semaines d'enfer après les fêtes, là, ben le jeu n'en vaut pas la chance.
Oui, mais le problème, Bernard, puis moi, c'est comme ça que j'avais compris l'annonce de François Legault, c'est que là, en disant non, le monde va le faire pareil, puis ils le feront pas baliser.
Mais c'est sûr que c'était ça.
Mais là, ils vont le faire. Là. Le monde va le faire pareil. Fait que ton enfer en janvier, là, tu vas l'avoir pareil.
Ah, tu vas l'avoir, mais jusqu'à quel point? Moi, c'est-à-dire, je suis pas sûr que tu vas avoir l'enfer. J'espère qu'on n'aura pas l'enfer. On va avoir une hausse des cas après Noël, ça, c'est clair. C'est clair, on le sait maintenant comment ça fonctionne. C'est statistique, c'est mathématique. Le nombre de contacts augmente, le nombre de cas augmente. C'est mathématique. Fait que c'est sûr que le nombre de contacts humains va augmenter pendant les fêtes. La question est de savoir, Martin, si jamais, là, Legault, là, tire la plug, comme on dit, puis dit finalement, là, pas aujourd'hui, il ne fera pas ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, d'après moi, il va resserrer pas mal puis il va nous préparer. Là. D'après moi, il va venir répéter à 13 heures ce que j'ai reçu comme message hier soir. Là. C'est pas pour rien. Là. La personne qui m'interpelle comme ça là, le soir de même, là, elle fait pas ça pour me rendre intéressant. Là. Elle fait ça parce qu'elle veut que je vous en parle. Puis elle veut que je vous en parle parce qu'elle veut que le message se rende aux citoyens. Là, je veux dire,
pour nous préparer.
Préparer le monde.
Ben oui. C'est ça, c'est un espèce de massage, là. Tu sais, il nous prépare. Il prépare le message. Il voulait pas que Legault, là, ça arrive comme une brique à 13 heures, là, comme un... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ils m'appellent, puis là, ils me disent, garde, voici où on en est. Puis ils me bullshit pas, là. Écoute, ils joueraient pas avec ça. Tu comprends? Fait que là, ils nous préparent à resserrer, puis éventuellement à nous annoncer qu'ils revirent de bord, qu'ils changent d'orientation. Mais tu sais, moi, je me mets à leur place, puis Martin, t'as raison de dire des récalcitrants, ils vont en avoir. De toute façon, là, même s'ils maintenaient les 4 jours, là, on s'entend-tu qu'il y en a qui vont fêter au jour de l'an pareil, là, même clair. Si le gouvernement le permet. Bon, fait que tu sais, moi je pense que les ordres de marche du gouvernement, ça a quand même un impact sur la population. C'est-à-dire, s'il nous dit pas de rassemblement du 24 au 27, là, pas de rassemblement du tout à Noël, c'est-à-dire vous réunissez avec les personnes qui vivent sous un même toit, puis sous votre toit, puis c'est tout, là. Ben moi, je pense que ça va quand même réduire le nombre de rassemblements, Martin.
J'espère que je peux me réunir avec le monde qui vit sous mon toit.
Oui.
C'est la faute à Doug Ford, puis c'est la faute à Theresa Tam, les party poopers en chef du Canada. C'est eux autres qui sont venus nous gâcher notre beau plan de Noël. Parce que moi, le plan de Noël, j'avais vu ça comme un encadrement, comme une responsabilisation de party. Puis là, au lieu de ça, ils vont nous mettre la ligne dure comme le reste du Canada, puis tu vas avoir des parties clandestins partout, puis ça risque d'être pire que bien.
Oui, mais des parties clandestins, t'en aurais eu anyway. Moi, je vais te dire, honnêtement, on était à la guerre, là, puis on a un général, il s'appelle François Legault, puis là, ça se pourrait qu'il change sa stratégie militaire, là. Ça se pourrait qu'il décide finalement que le champ de bataille doit être reconfiguré, puis que finalement, ce qui était prévu pour le 24 n'aura pas lieu. Puis honnêtement, Martin, moi, j'aime mieux qu'ils me le disent. J'aime mieux qu'il reconnaisse d'une certaine manière son erreur avant que de se retrouver au mois de janvier avec une hausse, une explosion des cas. Il y aura une hausse, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose là, où on perd le contrôle. Ouais. Tu sais, vous êtes bien placé au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour en parler de tout ça. Puis honnêtement, si le goût ne revire pas de bord, là, puis on se retrouve avec tu sais, des situations comme vous en vivez au Saguenay, un peu partout au Québec, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, là, les commentateurs? Là? On va blâmer le goût. Puis on va dire, il aurait dû revirer de bord. Il aurait dû changer sa directive. Puis Legault, voyant ça, non seulement il ne veut pas vivre avec les conséquences humaines d'une mauvaise décision, il ne veut pas vivre avec les conséquences politiques d'avoir autorisé les parties.
Oui, mais il va avoir une conséquence politique de par cet empressement de donner des bonnes nouvelles qui, dans le fond, c'était juste trop rapide. Là,
précipité.
Très précipité. Et hier, là, moi, il y a une affaire, par exemple. T'sais, Général Legault, là, je le suis jusqu'à un certain point. Là. Ouais. Mais hier, c'est parce que ces soldats, un après l'autre, là, ou ces généraux, là, ça a été le cas de la ministre, de la vice-première ministre hier, qui est allée nous dire que si jamais ça éclate en janvier, c'est de notre faute. Là. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt dans le champ de bataille, c'est de notre faute. Là. Mais là, c'est parce que c'est un peu de votre faute si vous donnez des instructions qui ne sont pas suivables. Tu sais, à mon sens, je suis un peu tanné de ce message-là.
Bien, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi que s'ils décident finalement de revirer de bord, ils vont se faire critiquer pour nous avoir donné des faux espoirs, puis pour nous avoir, dans le fond, annoncé une décision trop rapidement. Bon, mais j'en reviens à mon point premier. Mm-hmm. Le prix politique et plus important, le prix humain va être moindre s'il change d'idée maintenant. S'il revire de bord maintenant plutôt que de se dire on va pas revirer de bord parce qu'on va se faire critiquer. Mais je vais te dire une affaire, si on se retrouve dans un chenoute après Noël, puis qu'on juge que, finalement, la décision d'autoriser Party était une très mauvaise décision, pour ne pas dire une très grave erreur. Si on peut dire une affaire, ils vont passer au cash, là.
Absolument, absolument. Mais juste une affaire concernant notre région, puis ce qu'on vit actuellement, c'est en train de se transférer. Tu sais, ça a été dans les écoles, beaucoup, là, c'est stabilisé dans les écoles, mais ce qu'on voit, c'est que ça éclate des foyers pour personnes âgées. Puis c'est pas dans les CHSLD autant que dans les RPA, de grande dimension, tu sais, comme l'endroit où était Marc-André Bédard. Bon, on en reparlera tantôt de Marc-André, mais c'est une place où il y a 400 personnes. Tu sais, puis c'est des gens qui sont âgés en moyenne de 80 plus, là. Donc, c'est un peu comme allumer une allumette dans une shop de feux d'artifice, là. S'il y en a un qui éclate, ils vont tous éclater. Puis peut-être que notre modèle, au terme de cette pandémie-là, on va être obligé de se dire, c'est-tu une bonne idée de mettre 400 personnes vulnérables, 500, 600 dans certains endroits, toutes à la même place, alors que si jamais il y a un virus comme la COVID qui apparaît, Ben là, ces gens-là sont transférés à l'hôpital parce que dans les RPA, ils n'ont pas l'équipement des CHSLD, c'est pas des centres de soins. Donc, jusqu'à un certain point, ils sont obligés de les transférer. Puis c'est eux autres là, qui remplissent l'hôpital, le CIUS, puis nos hôpitaux en ce moment. Là.
Ben oui, c'est sûr, ça.
Alors, c'est sûr, ça. Notre modèle n'est pas bon.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Dominique?
Oui, mais là, il va falloir y repenser. Je pense qu'on a un avertissement sérieux là, d'un moment donné. Ben... Quand on autorise des projets de construction, est-ce qu'on va être obligé de mettre une limite sur le nombre de personnes qui peuvent l'habiter?
Ah, OK, non, en ce sens-là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est à court terme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais? Je veux dire, on est pris avec tous les défauts de notre modèle. Là.
Exact.
Puis c'est comme si la pandémie avait grossi à la puissance 10. Ah, les faiblesses qu'on avait déjà, là, ça nous expose, effectivement.
Véritablement. On a nommé hier le sous-ministre qui va gérer le fonds vert. Et bon, j'espère que lui aura des bonnes idées pour dépenser le fonds vert, parce que malheureusement, il n'y a pas toujours eu bonne presse, ce fonds-là.
Non, exactement. Puis je vous le rappelle, là, ça ne s'appellera plus le fonds vert, ça s'appelle le FEC, le Fonds d'électrification et de changement climatique. Écoutez, il y a 6,7 milliards dans ce fonds-là pour les 5 prochaines années. C'est du gros argent. Et là, le gouvernement Legault a nommé Jean-François Gibault, nouveau sous-ministre responsable donc de ce fonds de 6,7 milliards. Moi, je l'ai connu, Gibault. C'est pour ça que je vous en parle. On était sur le comité de la période des questions de l'opposition officielle ensemble. Gibault, il a été le perchiste de François Legault, du temps où François Legault était encore au PQ, quand il était porte-parole pour les finances puis l'économie. Fait que lui et Legault se connaissent très, très bien. Après ça, Jean-François Gibault a été le principal conseiller économique de Mme Marois. Il a été directeur de cabinet du ministre des Finances, Nicolas Marceau. C'est un gars de chiffres, Gibault. C'est un gars de résultats. Et donc, lui, là, la question qu'il va se poser tout le temps... Tu sais, c'est pas un idéologue, Jean-François. C'est pas un idéologue. C'est un pragmatique. Et puis là, il va regarder quelles sont les meilleures façons pour atteindre la fameuse cible de moins 37,5 % d'ici 2030. C'est ça qu'il va faire. Fait que les gorilles en Afrique se le tiennent pour dit. Avec Gibault, là, il n'y en aura plus d'argent du fonds vert qui vont s'en aller pour les gorilles en Afrique.
Hey, je te pose une question de néophyte en politique. Là. Mettons l'auditeur dans son char un matin là, qui t'entend dire combien de milliards?
6,7 milliards. Okay. Ça vient de la bourse du carbone.
OK, c'est
là, pour
beau. Moi, là, j'ai juste un secondaire 5 là, en maths. Là.
Oui.
Mais on peut pas sacrer la hache là-dedans puis garder ça pour nous autres vu qu'on est dans la dèche de 15.
Ben...
Non, mais je suis rien qu'un cave qu'un secondaire 5. Là, mais...
Non, non.
On peut pas faire ça.
Ben, c'est parce que la bourse du carbone, elle a été créée pour lutter contre les changements climatiques.
Je comprends bien, là, mais l'argent. On est tout assez dans la boîte.
Oui, mais ta question est pas mauvaise. L'approche de la CAQ là, en matière de lutte au changement climatique, là, eux autres, ce qu'ils veulent faire, là, ils veulent se servir de la lutte au GES pour faire du développement économique. C'est ça leur approche. Leur approche, c'est pas l'urgence climatique, c'est l'urgence pragmatique. Fait que le discours sur la décroissance là, que nous servent parfois là, certains environnementalistes, là, oubliez ça avec la CAQ, puis oubliez ça avec Gibault. Gibault, lui, ce qu'il va vouloir, là, c'est des résultats. Il va vouloir, là, mettons, Martin, je vais te donner un exemple bien concret, puis ça vous touche. Si tu dois choisir entre prendre de l'argent du fonds vert puis le mettre dans une piste cyclable, puis c'est une bonne idée, une piste cyclable, je veux dire, tu sais, bon, c'est vert, une piste cyclable, là. Mais mettons que tu dois choisir entre ça, mettre l'argent dans une piste cyclable, ou mettre l'argent dans une nouvelle technologie qui va permettre aux alumineries de produire moins de GES, je te garantis que Gibault va le mettre, l'argent, dans les alumineries. Tu me suis-tu?
Oui. Donc, on veut faire fructifier ce 6 milliards-là pour qu'il devienne un 15-20, c'est ce que je comprends. Là.
Alors, exact.
Au niveau économique.
Tout en réduisant les GES. Puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas vrai là, qu'il faut opposer la lutte au changement climatique et le développement économique. Oubliez ça, d'abord, la majorité n'est pas d'accord, la vaste majorité n'est pas d'accord. Ils sont prêts à faire leur part, mais ils ne sont pas prêts à plomber l'économie au nom de la lutte au changement climatique. Ça, j'en suis profondément convaincu. Et par ailleurs, donc, il faut trouver la bonne façon. C'est pour ça que l'électrification des transports est une bonne manière de diminuer GES, puis de travailler sur l'auto électrique, sur le camion électrique, l'autobus électrique. On a des usines au Québec qui en fabriquent des autobus électriques. On a Lyon Transport à Saint-Jérôme qui fabrique des camions électriques. Il faut allier développement économique et lutte au changement climatique. Mais chose certaine, Gibault, là, bon jugement politique, lui, là, quand il va prendre les décisions, là, il va penser à Gérard qui boit son café chez Tim Hortons et à qui on demande de faire un effort pour la planète, puis là, qui voit les niaiseries du fond vert, puis qui se dit, y a-tu quelqu'un qui est en train de me niaiser, là? Y a-tu quelqu'un qui est en train de me niaiser en prenant mon argent pour le donner aux gorilles en Afrique? Gibault va être très sensible à ça. Fait que moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. On a intérêt à ce qu'il réussisse.
Très, 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 très bonne chose. On termine évidemment avec Marc-André Bédard. Un mot sur lui. Comme tu as été au PQ, c'est quelqu'un que tu as connu, évidemment.
Oui, je peux pas dire que je l'ai connu intimement. Mais Marc-André, à toutes les fois qu'on venait dans la région, mettons que je venais dans la région, là, qu'il y avait un rassemblement politique, plus souvent qu'autrement, il était là. Marc-André Bédard. J'ai, à un moment donné, au début de ma carrière politique, j'avais été jouer au golf avec avec ses deux fils. Je pense que Stéphane était là aussi, mais en tout cas, Éric était là, certain. Et puis Marc-André était là. Puis j'avais passé une partie de la journée avec Marc-André. Je veux dire, quand on prend un peu de recul, là, on ne peut pas faire autrement que de se dire qu'on vient de perdre un géant. Là. Parce que ce gars-là, c'était vraiment un des grands ministres de la justice de l'histoire du Québec. Là. Ouais. On a beaucoup parlé du fait que c'est lui qui a modifié la Charte des droits pour interdire la discrimination là, sur la base de l'orientation sexuelle. Mais je veux dire, ce gars-là là, a servi le Québec là, d'une manière absolument exemplaire. Il aimait profondément le Québec. Il aimait profondément sa région. C'était un grand souverainiste, jamais découragé. Ça, c'était fascinant. Avec Marc-André, jamais découragé. Toujours, on regarde en avant, on continue à y croire, on fait le travail. C'est un homme bon, Marc-André. Je veux dire, c'est un gars qui ne s'est pas fait d'ennemis en politique. Un fin renard, disons-le. Bon jugement. Très proche de René Lévesque, qui ne prenait aucune décision importante ou stratégique sans d'abord en parler à Marc-André. Moi, je vous le rappelle, là, dans les mois qui ont précédé l'élection de 1976, dis-je, l'élection qui a mené à la victoire du PQ, dans les semaines qui précèdent, là, dans les mois qui précèdent pendant l'été, là, le leadership de Lévesque est contesté. Là. Claude Charron, notamment, veut faire sauter René Lévesque, il l'appelle le vieux. Et c'est Marc-André Bédard qui va soutenir René Lévesque là, jusqu'à la fin. Là. Et de cette manière-là, va devenir un fidèle parmi les fidèles. Là. La loyauté au chef, là, c'était une vertu cardinale de Marc-André Bédard, qui l'a d'ailleurs bien transmis à sa descendance. Je veux dire, le gars, il aimait les gens, puis les gens l'aimaient. Moi, il y a quelqu'un qui m'a conté, il dit, à un moment donné, j'avais besoin de son conseil. Il dit, on se rencontre dans un restaurant de Chicoutimi. Il dit, j'ai passé 4 heures avec lui, puis il dit, j'ai pas été capable d'avoir ma réunion parce qu'on est interrompu aux 5 minutes par un citoyen qui voulait parler à Marc-André.
Ah, c'est sûr.
Il ne voulait pas parler à M. Bédard. Il voulait parler à Marc-André.
Ah oh, oui. Puis c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux gens. Tu sais, je l'ai rencontré à quelques reprises, mais la première fois que je l'ai rencontré, là, c'est la série de questions. Ah oui, vous êtes qui? Vous venez d'où? C'est qui vos parents? Puis vous avez fréquenté quelle école? Puis ah oui, puis il s'intéressait au monde.
Non, non, c'est... Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il était à ce point apprécié. C'est qu'il était vrai. Marc-André Bédard, il était vrai. Il était pas fauné. Mm-hmm. Tu sais, j'ai parlé à Jean Royer, qui a été un des plus proches conseillers de Jacques Parizeau. Puis, tu sais, il était là, évidemment, dans le temps de Marc-André Bédard. Puis, tu sais, il me racontait là, à quel point Marc-André Bédard était un personnage extrêmement influent, qui avait toute la confiance de René Lévesque. Puis, tu sais, il me racontait des petites anecdotes. Là. Par exemple, il me disait que c'était tout un compagnon de fin de soirée. Marc-André. Il dit, il était pas couchable. Il faisait partie du petit groupe qui jouait aux cartes avec René Lévesque.
Okay.
Puis il me disait, dans le cas de Marc-André, il dit, je vois tout. Quand Marc-André était là, je sais pas les autres fois, là, mais il dit, avec Marc-André, là, on jouait à l'argent. Puis j'ai dit, c'est-tu vrai qu'il fallait pas parler de politique pendant les games de cartes parce que René Lévesque, là, c'était sa détente. Puis Jean Royer m'a dit, t'avais intérêt à pas trop parler politique avec eux autres si tu voulais pas perdre ta chemise.
Oh, c'est bon.
Parce que c'était des bons joueurs. C'était des bons joueurs de cartes. Fait que moi, je veux juste dire, je l'ai déjà dit dans mon émission, mais je veux retransmettre à nouveau mes sincères condoléances à toute la famille Bédard, à Stéphane et à Éric Bédard. Stéphane avec qui j'ai siégé. Éric Bédard, c'est un conseiller extrêmement précieux. Et puis, la conjointe aussi de Stéphane, que j'ai connue à travers mes années en politique. Et puis, dire à nouveau merci à Marc-André pour tout ce qu'il a fait pour le Québec. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci.
Merci, mon cher Bernard. On se reparle lundi.
Hey, salut tout le monde. Bye.
Bonne journée. Bernard Drainville, il est 8h38.
Le show du matin. On revient dans quelques minutes. 95.7 Kick Saguenay.